Aujourd'hui, notre rencontre porte sur les 1000 premiers jours de la vie, là où tout commence. Et pour ça, donc, nous avons aujourd'hui en fait une intervenante qui est une grande experte de la petite enfance. Et donc, je vais vous présenter brièvement Nathalie Casso-Vicarini, est fondatrice et déléguée générale d'une association donc, qu'elle a créée il y a 7 ans, qui s'appelle Ensemble pour l'enfance, EPE, Ensemble pour la petite enfance. Voilà, Ensemble pour la petite enfance. Et une association donc, qui a une double vocation. La première, en fait, c'est de former, outiller, accompagner les professionnels de la petite enfance à la lumière en fait, de toute l'expérience que Nathalie et son équipe ont pu acquérir, notamment donc, en regardant tout ce qui se fait de mieux, les best practices en matière de politique de petite enfance en fait, dans les différents pays internationaux, et aussi à la lumière aussi, de toutes les recherches scientifiques, qu'elles soient dans le domaine des neurosciences, de la psychologie ou de la pédagogie. Ça, c'est effectivement première vocation, c'est cette formation des professionnels. Et la deuxième, et c'est parfaitement complémentaire, puisque donc, comme Nathalie le dira, donc, son association repose sur deux jambes, comme en fait un petit enfant quand il apprend à marcher. Et donc la deuxième, ben, donc, c'est tout ce qui est influencer, sensibiliser les politiques publiques pour qu'elles prennent mieux en compte en fait, les besoins du développement de la petite enfance, et notamment en fait, auprès des populations et des familles en fait, précarisées ou de milieux défavorisés. Donc, dans ce cadre-là, donc, Nathalie en fait, joue aussi un rôle important et a joué en fait, un rôle important au niveau d'un certain nombre de politiques publiques. Elle a été co-rapporteuse d'une commission donc, qui a travaillé sur les questions de précarité des jeunes enfants pour le ministère de la Santé, donc accompagner effectivement donc, les familles en pauvreté pour qu'elles puissent prendre en compte donc, les besoins des jeunes enfants. Donc cette commission qu'elle a co-présidée avec le maire d'Arras, donc Arras étant une ville qui peut être représentée ici, je crois, par ses responsables éducation qui est très pionnière en matière de politique publique locale pour la petite enfance. Nathalie est aussi donc est membre du comité d'experts qui a été réuni autour de Boris Cyrulnik et à la demande du président de la République en 2019 pour établir un rapport, en fait, donc, un peu sur la politique de petite enfance, rapport sur les 1000 premiers jours. Et depuis, il y a un comité de suivi de ce rapport et de mise en œuvre des politiques publiques. Et elle en parlera. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, ses principales expériences, en fait, donc, dont elle va se servir pour nous parler du sujet, non pas institutionnel, mais très clairement, donc, qui intéresse aussi bien les grands-parents que les parents. Et ça fait plaisir de voir un certain nombre de poussettes, de landaux ici. On n'en est pas tellement familier dans la prairie, mais c'est clairement donc l'objet de pouvoir transmettre en fait tout un savoir. En fait, et après, elle nous dira si c'est des conseils ou simplement donc une manière d'accompagner donc aux jeunes parents. Mais je dirais aussi donc pour compléter ce tableau que Nathalie est aussi donc elle est formatrice, elle intervient effectivement au comité de perfectionnement donc du master en sciences de l'éducation donc à Paris Nanterre, qu'elle intervient aussi en fait auprès de la faculté de médecine de Lille et qu'elle a été elle-même en fait entrepreneur en créant ou gérant des crèches, que ce soit en France, en Inde en fait, et donc aussi elle a été en Australie. Et donc, en fait, une carrière donc, qui n'en est évidemment donc, pas du tout en fait, au terme, puisqu'elle est en pleine en fait, activité, mais qui est très, très riche. Donc, mais toujours au service de la petite enfance. Et ça va être ma première question, Nathalie. Ça va être de savoir d'où vient cette passion pour la petite enfance. Est-ce que quand vous aviez 5 ou 6 ans, déjà en regardant votre poupée, vous vous disiez « je veux m'occuper des bébés toute ma vie ».
Merci Arnaud. Je voudrais vraiment remercier vous tous qui êtes là avec des tout-petits, notamment Côme et Solange. Merci d'être avec nous, les parents, les grands-parents. Merci Arnaud et l'organisation. C'est vraiment un bonheur d'être ici sous les arbres. Et la nature va certainement nous inspirer et inspire les 1000 premiers jours. Alors pourquoi je me suis lancée dans cette grande aventure ? Je pense que j'ai un peu manqué d'affection dans ma petite enfance. Et puis, ça m'a donné, par la résilience, de grandes envies de m'occuper des tout-petits. Quand j'avais 5-6 ans, j'étais une enfant assez malade jusqu'à 9 ans et je voulais être pédiatre. Je voulais aider les autres bébés, les autres enfants. Et puis mon papa m'a dit, écoute, vraiment, t'es tellement mauvaise en mathématiques que tu vas peut-être oublier de faire médecine. Et je me suis beaucoup ennuyée en classe, mais vraiment beaucoup. Et ça a nourri une autre passion, j'ai fait du droit. Et je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire l'école de la magistrature et je vais devenir juge pour enfants parce que je vais pouvoir aider les enfants. Et en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai bien fait mes études de droit, mais je ne suis pas devenue juge pour enfants. Et j'ai commencé à travailler. Et de fil en aiguille, j'ai épousé le métier d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai fait un master 2 en sciences de l'éducation et j'ai souhaité accompagner, comme Arnaud le disait tout à l'heure, outiller l'ensemble des 600 000 professionnels de la petite enfance en France. Ils sont nombreux et ils ont besoin d'être nourris de connaissances justes, robustes, issues de la science qui bouge en permanence, pour ajuster leur pratique éducative. Parce que si on est là, ce qui nous réunit, c'est nos 1000 premiers jours aussi. C'est ceux de nos enfants, de nos petits-enfants, mais aussi les nôtres. Comment nous-mêmes, on a été accompagnés et comment on peut accompagner au mieux. On souhaite tous le meilleur pour nos enfants, à condition d'avoir des connaissances qui s'actualisent aussi.
Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet, ouais. Hein, parce que c'est 1000 jours, donc ça sonne bien. Mais alors évidemment, on connaît tous les contes des mille et une nuits. On aimerait vraiment que vous nous disiez qu'est-ce que c'est que ces 1000 premiers jours. D'abord, quand ça commence et de quoi s'agit-il et pourquoi ce chiffre 1000 est si important?
Alors 1000, c'est d'abord un concept. C'est un concept qui nous envoie un message très fort, c'est qu'il faut agir tôt. Plus on agit tôt, moins on a besoin de réparer. Quand on investit $1 ou 1 euro dans l'éducation de la toute petite enfance avant 3 ans, on évite à peu près 17 euros ou 17 dollars en réparation des dommages. Donc plus on investit tôt, mieux c'est d'abord un concept. Ensuite, alors physiologiquement, les 1000 jours commencent au 4e mois de grossesse à peu près, hein, au moment où cette grossesse devient à peu près concrète, on sent le bébé bouger. Et ce bébé, il va suivre un développement extrêmement rapide jusqu'à la fin de ses 1000 premiers jours qui sont situés environ à 2 ans de vie de l'enfant. C'est à la fois une fenêtre d'opportunité exceptionnelle, la plus importante de toute notre existence, celle où, pendant laquelle tout va très très vite, et à la fois une promesse et une vulnérabilité également la plus importante de notre vie. C'est-à-dire que tout ne sera pas joué pendant ces 1000 premiers jours, mais on construit les fondations de l'individu, celui qui sera l'acteur de la société de demain. C'est pas rien. Et ça ne se fait pas comme ça. Et en même temps, il faut aussi un petit peu de légèreté dans l'éducation de nos enfants et ne pas se sentir coupable de ne pas avoir pas fait exactement ce qu'il fallait, parce que la résilience opère quand le bébé a été bien accompagné, bien nourri, aimé, attaché, qu'il est bien attaché et que il va pouvoir poursuivre son développement harmonieux. Mais c'est vraiment cette fenêtre d'opportunité, de fragilité et de promesse la plus importante de toute la vie.
Et dans ces 1000 premiers jours, ils sont très importants, mais ils sont très importants parce que l'empreinte va être très forte. Et ça porte en fait un peu sur toutes les composantes du développement, ça porte sur la santé en fait, je crois aussi.
Oui, on parle de santé globale. Alors aujourd'hui, par exemple, l'université d'Harvard a 13 masters sur le développement de l'enfant à la lumière des neurosciences. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont formés, c'est une université de pointe, mais il en existe dans le monde entier. L'université d'Oslo, de Montréal, ont des départements de neuroéducation. C'est important de le savoir. En Belgique également, il y a une très très belle université avec l'ONE qui travaille sur ces questions-là. ça nous envoie également un message que on peut avoir été éduqué d'une certaine façon, avec peut-être des croyances de nos parents, nos grands-parents, et nous-mêmes, on est peut-être nourris de ces éléments-là. Et la science bouge, les neurosciences et l'épigénétique sont deux champs extrêmement passionnants, fascinants, qui nous donnent des clés pour accompagner nos enfants. Alors d'une part, les neurosciences, c'est toutes les questions de santé globale liées à au fonctionnement du cerveau. Le cerveau est lié à toutes les fonctions motrices, des sens aussi, et de toute la psychologie de nos enfants. Donc tout est lié, mais est contrôlé par l'activité cérébrale. Et puis l'épigénétique, de l'autre côté, nous dit que l'environnement de notre quotidien, le quotidien de nos enfants, a une influence capitale qui est de plus de 50% du développement sur l'enfant qui va évoluer. Donc l'épigénétique, c'est tout ce que va vivre l'enfant, va avoir une empreinte, va laisser une empreinte sur son développement et va peut-être aller plus loin, c'est-à-dire que cette empreinte-là va peut-être aussi, dans certains déterminants de santé, s'exprimer dans les gènes. Ça veut dire que la façon dont on s'occupe de nos enfants aujourd'hui a un impact sur l'enfant, mais aussi sur sa descendance dans certaines dimensions. Donc ça, maintenant, on a ces connaissances-là, et comme on les a, eh bien, c'est important de les partager.
Donc ce n'est pas l'inné ou l'acquis, c'est l'inné et l'acquis, avec une interaction que l'acquis peut devenir, en fait, inné pour des générations à venir. Alors justement, puisqu'on parle d'impact, et on parle en fait de l'importance de l'environnement, l'environnement parental, l'environnement grand-parental, l'environnement des professionnels de la petite enfance pour les enfants donc qui sont confiés en fait à ces professionnels. Quels vont être effectivement les impacts positifs et en fait et comment faire en sorte justement pour ces adultes d'exercer le maximum d'impact positif sur le tout jeune enfant.
Merci pour cette intéressante question qui est fondamentale dans le développement. Ce que nous disent les neurosciences aujourd'hui, ces grandes universités dans le monde produisent une sorte de terrain propice aux bonnes pratiques avec cette littérature scientifique qui est très convergente, quels que soient les pays. On sait aujourd'hui qu'un bébé n'est pas qu'un tube digestif, ce qu'on pensait il y a très longtemps et que certaines personnes pense encore peut-être. Un bébé a besoin, pour se développer dans les meilleures conditions, d'être attaché. C'est ce qu'on appelle l'attachement, la théorie de l'attachement. John Bowlby, c'est peut-être un nom que vous connaissez. Il y a des besoins physiologiques chez un bébé, mais déjà in utero. On sait qu'in utero, et ça pose beaucoup de questions éthiques, déjà in utero, quand on porte un bébé... il est investi de l'amour, de l'attention, de l'attente de ses parents. Et quand ce bébé va naître, eh bien, cette qualité de la relation avec le bébé va être déterminante pour sa santé globale. Ça, c'est la première chose que nous confirment les neurosciences. C'est-à-dire que quand on est face à un bébé, je pense à Côme, qui a 2 mois, eh bien, ce dialogue s'opère en laissant passer les silences à peu près à 30 cm face au bébé. Ce face-à-face va permettre un moment déterminant dans la vie de chaque individu qui est le sourire social. Et ça, vraiment, je voulais en parler aujourd'hui. Vers 1 mois et demi, 2 mois, un bébé ne sourit plus, n'a plus de sourire volontaire musculaire, mais va se déclencher ce sourire social dont Boris Cyrulnik nous dit que c'est le marqueur principal de la résilience. Rien que ça. Donc un bébé n'est pas qu'un tube digestif, certes, et a besoin de toute l'attention des personnes qui l'entourent, c'est-à-dire ses parents, ses grands-parents, le village autour de ce bébé qui est constitué de 6 à 8 personnes, figures d'attachement principales autour de ce bébé. C'est encore une fois le docteur Boris Cyrulnik avec qui je travaille, j'ai l'honneur de travailler, qui nous le confirme. Ce bébé, il a besoin, dans le regard de l'autre, de se voir et d'interagir avec cette autre figure d'attachement. Donc ça, c'est la chose essentielle. Et lorsque ce sourire social s'est déclenché et que la courbe est ascendante, c'est-à-dire que le bébé va être dans une interaction, l'enfant va être dans une interaction, c'est ce qu'on appelle les compétences sociales. Ce sont les compétences du 21e siècle, nous dit l'OMS. Ces compétences sociales, elles vont permettre de bâtir le développement global. C'est le socle, ces compétences sont le socle du développement global. C'est-à-dire que la motricité va intervenir, le bébé il va se mettre à parler, le langage va se mettre en place. Et tout le développement cognitif et le développement sensoriel va suivre un développement optimal. Voilà. Et on va pouvoir ainsi accompagner l'ensemble des potentiels de ces bébés dès les 1000 premiers jours. Ça démarre in utero.
Ça démarre in utero et l'action de tous, en fait, à travers l'attention, justement, l'attention portée, donc va être très importante pendant ces 3 ans. Mais alors, c'est de l'éducation, c'est qu'est-ce que c'est en fait? Comment qualifier en fait donc cette attention? Parce que il y a tout un débat aussi. Donc faut-il beaucoup stimuler les enfants ou faut-il répondre en fait à leurs besoins? Comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Ouais, c'est super important. On entend beaucoup parler de surstimulation. Alors j'achète des jouets, j'ai à cœur vraiment que le bébé développe tout son potentiel. En réalité, le bébé, il va se développer tout seul, au travers de ses 5 sens. Et il se développe surtout dans la nature. Ça, c'est un environnement hyper propice pour le développement. Il y a l'écorce d'un arbre, il y a les feuilles qui bougent avec le vent, l'herbe mouillée le matin. Le bébé, il se développe grâce à ses 5 sens. Ces 5 sens sont les voies d'entrée de toutes ses connaissances. On parle de la bouche, qui est la 3e main. On voit les bébés qui mettent tout à la bouche. Ben oui, c'est leur façon à eux de sentir une surface lisse, une surface rugueuse, une surface mouillée. C'est comme ça qu'ils apprennent le monde. Un bébé, il a besoin d'apprendre le monde en expérimentant, en faisant des essais-erreurs. Donc on va laisser le bébé et le petit enfant faire ses expériences dans un univers qui ne soit pas trop plastique. Au-delà de 4 murs, bien sûr, la nature est un formidable terrain de jeu pour un petit enfant, sans surstimulation. Tiens, l'enfant, c'est ce qu'on appelle en éducation, alors neuroéducation, la zone proximale de développement. Chaque bébé a son propre rythme. Chaque bébé va développer des compétences à son rythme en fonction de là où il en est dans son développement. Le petit Paul et la petite Louise, même s'ils ont le même âge, eh bien, ils ne vivent pas les mêmes expériences au quotidien. Ils n'ont pas les mêmes personnes autour d'eux qui vont pouvoir interagir avec eux. Et donc, ils en sont à des stades différents de leur développement. On ne peut pas mettre les enfants dans des cases. Ce n'est pas possible. Donc, le petit Paul et la petite Louise, ils font des expériences différentes jour après jour. Et les surstimuler, ça va leur apporter des éléments ou des jouets ou des jeux très développés pour accélérer leur développement, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est comme si on tirait sur les feuilles d'une salade pour essayer de faire grandir la salade. Eh bien, on ne la fait pas grandir, on la fait plutôt régresser ou elle stagne, la salade, dans son développement. Eh bien, un bébé, c'est un petit peu ça aussi. On va essayer de voir là où il en est dans son intérêt. Par exemple, un enfant de 2 ans qui va courir, qui est dans la motricité globale à plein pot, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est lui apporter les moyens d'aller au bout de ses explorations. Et là, vraiment, on l'aide dans son développement parce que c'est une pierre après l'autre. Quand son développement moteur sera bien en place, eh bien, le développement cognitif va être évidemment facilité.
Alors, est-ce que l'adulte, en fait, il est là pour accompagner l'enfant dans ses expériences ou est-ce qu'il est là aussi, en fait, pour lui apprendre les règles, en fait, de la société? Donc, quelque part, en fait, la frustration qu'on peut éprouver parce qu'on ne peut pas faire tout ce dont on a envie. Et quand je pose cette question, bon, je fais un peu référence à tout le débat qu'il y a actuellement, donc qui est extrêmement médiatisé, entre les tenants de la pédagogie positive, en fait, donc ceux qui vont considérer que ce que fait l'enfant, en fait, c'est toujours, effectivement, dans un souci de développement et qu'il faut l'accompagner. Et puis les autres, en fait, plus les tenants d'une certaine discipline, en fait, autorité. Et donc, et je pense là notamment en fait à la psychologue Caroline Goldman, donc, et qui s'est rendu très célèbre avec son fameux livre « Ton fil dans ta chambre » ou le « Time Out » pour montrer que l'enfant, donc, non, c'est pas effectivement en fait un petit roi, mais c'est un enfant auquel il faut apprendre quand même la vie, et que la vie c'est des contraintes.
Exactement, ça y est là, on est au cœur du... on est au cœur de la polémique. Bon, on va y aller, on va essayer de, ensemble de décrypter ce qui nous anime là en ce moment dans les médias. Le bébé, il a des besoins. Alors, un exemple, et puis après, j'essaye de décrypter la polémique. Un bébé, il a des besoins. Quand il pleure, il y a à peu près 12 pleurs différents, à peu près, chez chacun des bébés, et jusqu'à 4 mois. Un bébé qui pleure d'une certaine façon, il a un besoin. Il ne peut pas répondre à son besoin. Il va dire, attends, si tu ne viens pas, je vais aller me faire chauffer mon biberon, et puis je vais me nourrir, ou je vais me changer ma couche, ou je vais me faire un câlin à moi tout seul. C'est pas possible. Un bébé, il peut pas répondre à ses besoins. Il a besoin de l'autre, sinon il n'existe pas. Voilà, ça c'est une première chose. Et d'ailleurs, à 4 mois, jusqu'à 4 mois, les bébés dans tous les pays du monde pleurent de la même manière pour exprimer les mêmes besoins, parce qu'ils sont 100% physiologiques, ces besoins. Et à partir de 4 mois, l'empreinte culturelle vient se poser sur la prosodie de la langue du bébé, c'est-à-dire la musique de son babillage. Et à partir de 4 mois, un bébé chinois ne va pas pleurer de la même manière qu'un bébé français. C'est extrêmement intéressant, il va s'exprimer différemment, mais toujours pour dire des besoins. Donc un bébé, il a des besoins, et il ne peut pas y répondre. Donc un parent, un grand-parent, un professionnel va essayer de comprendre ce qui se passe en écoutant bien, en observant ce bébé, parce qu'il y a le langage, il y a le babillage, il y a les pleurs, mais il y a aussi le langage non-verbal qu'on va essayer de décrypter pour répondre à ses besoins. Alors Caroline Goldman, c'est une psychologue, elle est la fille de son père, elle a un nom, voilà, très reconnu, et je pense qu'elle l'utilise aussi beaucoup pour faire connaître ses idées et pour partager ses idées. Et en même temps, il y a les tenants de l'éducation dite positive qui me disent, mais c'est pas l'éducation positive, c'est l'éducation. Et au milieu, il y a beaucoup de professionnels, dont le docteur Boris Cyrulnik, mais d'autres, et nous en faisons partie, des professionnels qui disent, mais en fait, on a des connaissances scientifiques, on va s'en servir et on va essayer de les appliquer au quotidien. Parce qu'évidemment, un enfant, il a besoin d'un cadre. Mais pas n'importe quel cadre, bien entendu, ce serait trop facile. Et on a tous des héritages de cadres avec nos parents, nos grands-parents, qui sont très, très, très différents. Un bébé in utero, il est sécurisé par cette enveloppe corporelle, cette niche sensorielle qui va l'empêcher de vivre des situations adverses. Et bien, quand un bébé naît, cette enveloppe corporelle n'est plus là, mais pour autant, il va falloir poser un cadre sécurisant autour de ce bébé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir faire. On va, par exemple, protéger la plaque du four pour qu'il n'y mette pas ses petits doigts. Et il y a d'autres protections. On va empêcher certaines personnes, peut-être, de l'approcher, éviter la maltraitance et l'entourer de bienveillance, d'attention, de sécurité affective. Ça fait partie du cadre. On peut tout à fait, avec bienveillance et fermeté, dire non à un bébé parce qu'on le protège. La différence, elle est assez mince aussi entre ce cadre que l'on pose et puis une éducation très traditionnelle qui pourrait nous amener à procéder ce que Arnaud disait tout à l'heure, le time out. Le time out, c'est... Alors Caroline, elle le pratique. Elle l'a pratiqué chez son petit garçon de 10 mois. Je te mets dans ta chambre, le plus loin possible, je ferme la porte. Et moi, je me calme. Bon, alors ça, évidemment qu'on va le pratiquer si on n'en peut plus, plutôt que de taper son enfant, parce que maintenant la loi l'interdit, et tant mieux, un enfant c'est un être vulnérable. Pourquoi on taperait un enfant ? C'est pas une éducation. C'est la violence qui entraîne la violence. Donc le time-out, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, et Boris Cyrulnik l'explique très très bien. Un bébé de 10 mois va être placé dans une pièce loin de sa maman, et on aura fermé la porte. Il va appeler, il va pleurer. Il va peut-être avoir... quelle est la compréhension d'un bébé à 10 mois de « tu n'as pas le droit de faire ça, donc je te mets loin et je ne vais pas écouter tes pleurs ». Donc Boris Cyrulnik dit « ok, il pleure, la maman ou le papa vient pas ». Une fois, deux fois, trois fois, le bébé apprend le désespoir. Un enfant jusqu'à 5-6 ans a une telle immaturité cérébrale et en même temps une telle réversibilité, mais une immaturité cérébrale qui fait que son cerveau émotionnel, le cerveau, il est composé à peu près de trois grandes parties. Il y a le cerveau reptilien, qui est le cerveau de la survie. Quand on a faim, on mange, par exemple, on se nourrit. Il y a le cerveau des émotions, et puis il y a le cortex orbitofrontal, qui est le cerveau de la mémoire, mais aussi de tous les apprentissages, des fonctions exécutives, de la régulation émotionnelle. Quand ces cerveaux se connectent entre eux, quand les connexions cérébrales s'opèrent vers 5-6 ans, les enfants sont en capacité de réguler leurs émotions et de se raisonner s'ils ont autour d'eux des adultes qui leur montrent le bon chemin. Voilà, mais jusqu'à 5-6 ans, c'est un exercice qui est extrêmement difficile pour un enfant. Alors vous imaginez pour un bébé, de mettre un bébé à l'écart à 10 mois, on est encore tout petit, un bébé à l'écart sans répondre à ses besoins. Cela dit, quand un enfant en face de soi, mais c'est aussi une façon de décrypter son comportement, laisse tomber 15 fois sa cuillère et que l'adulte devient un peu fou là, parce que c'est évidemment très 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 agaçant. Alors, les neurosciences nous disent, et notamment le docteur José Tster, qui est une cognitiviste exceptionnelle, dit, il teste la gravité. Ok, il teste la gravité, mais moi ça m'énerve un peu. Mais c'est pas pour autant qu'on va mettre le bébé à l'écart en lui disant « écoute, ça j'en peux plus ». Il y a d'autres façons de faire, de mettre des mots sur la situation. Et quand le bébé entend ces mots sur la situation, il dit « bon, alors tu fais tomber ta cuillère, alors tu sais ce qu'on va faire, je vais te mettre au sol et puis on va continuer à déguster la compote différemment ». Le bébé va comprendre petit à petit et ça va l'aider dans sa maturation et notamment ses connexions entre le cortex orbitofrontal, le cerveau supérieur et le cerveau des émotions vont se faire d'autant plus vite que ces expériences auront été positives pour lui plutôt que de mettre à l'écart un enfant. Je ne sais pas si je vous ai convaincu.
Voilà, bon, on verra après en fait, à travers la question. Donc mettre l'enfant par terre, donc évidemment la gravité sera quand même plus limitée. Une dernière, en fait, la question par rapport, puisqu'on parle de fixer le cadre, donc quelle est la place dans ce cadre pour tout ce qui est ces fameux écrans qui occupent une place très importante dans la vie des adultes, des jeunes, et donc est-ce que les écrans c'est bien ou c'est pas bien du tout pour des petits-enfants?
Alors là, il y a aussi place à une réflexion au milieu, hein. c'est un sujet... éminemment actuel. Et c'est la première fois qu'un enfant est plus habile que ses parents parce que l'écran est intuitif. Évidemment, il a été fabriqué pour être intuitif. Et c'est la première fois qu'un enfant tout petit va dépasser les compétences parentales ou grand-parentales avec un objet. En réalité, ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant quand il regarde un écran, il y a cette lumière bleue et puis ce sont des hormones qui interviennent au niveau de son cerveau qui se complètent, qui participent à son comportement, et notamment l'ocytocine, la dopamine sont des hormones du bien-être, ça active le circuit de la récompense dans le cerveau. C'est comme si le cerveau disait à l'enfant: essaye encore. Vas-y. Alors nous, on se fait prendre aussi par le sujet. C'est-à-dire que quand on est devant son écran, on regarde quelque chose, tout est fait pour aller plus loin dans l'exploration. Je vais essayer de vous réchauffer avec les écrans, c'est pas très chaud là. Un enfant jusqu'à 5-6 ans, il est incapable hein, de réguler, on l'a vu tout à l'heure, il est incapable de réguler son envie d'aller plus loin dans l'exploration d'un écran. Et puis, il y a des images qui peuvent être extrêmement violentes, qui ne sont pas forcément régulées si on ne met pas de filtre sur un écran. Et surtout, un enfant, il a des parents, des grands-parents qui sont ses modèles, hein, qui sont ses personnes, les personnes de confiance. Ces fameuses 6 à 8 personnes qui participent à sa niche sensorielle, qui sont ses tuteurs de résilience, mais qui sont aussi ses figures d'attachement. Et ces figures d'attachement, l'enfant, il a confiance en elles. Donc, les neurones miroirs vont s'activer. Un bébé qui voit son parent ou son grand-parent ou les amis en permanence sur son téléphone, qu'est-ce qu'il se dit, le bébé ? Il se dit, bon, bah, c'est très intéressant. Hein. Ils sont tout le temps là sur leur tablette. C'est que ça doit être fascinant, donc je vais faire pareil. Les neurones miroirs s'activent et l'enfant, il n'a pas la capacité de réguler ça. En tout cas, jusqu'à au moins 5-6 ans. L'OMS nous envoie un message fort, hein, c'est zéro écran jusqu'à 3 ans, parce que aussi l'œil n'a pas encore terminé sa formation et que ces images, la lumière bleue, et l'écran, dans ce qu'il envoie, n'est pas favorable à son développement. En même temps, pendant la période du Covid, quand on avait la possibilité de correspondre et d'interagir avec des personnes de la famille loin, on utilisait l'écran pour que l'enfant ne soit pas isolé de personnes qu'il aime. Et ça, c'était très intéressant et ça continue évidemment à être très intéressant. Un usage raisonné est certainement à travailler au sein de chaque famille, sachant que ça passe d'abord par nous-mêmes, par notre propre utilisation des écrans.
Un usage raisonné et accompagné peut-être par une de ces fameuses 6 ou 8 personnes donc, voilà, qui peuvent médiatiser en fait, encore ce qu'il va découvrir. Avant de passer la parole au public et aux nombreuses questions que vous ne manquerez pas de poser à Nathalie, une question quand même en fait sur l'aspect politique public. Donc vous avez participé donc à cette commission mise en place par le président de la République avec 17 experts sous la présidence de Boris Cyrulnik. Vous avez remis un beau rapport. Quelles sont les conclusions de ce rapport ? Ce rapport, je crois qu'il a été remis en 2020. Voilà. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des politiques publiques pour la petite enfance et pour ces fameux 1000 premiers jours ?
Alors ce rapport, on l'a remis en septembre 2020. Il est l'objet d'un consensus scientifique entre les tenants de l'éducation, plutôt du côté de Caroline Goldman, et les tenants de l'éducation, allez, on va dire positive, bienveillante. Et ça a été un combat compliqué, très compliqué. Pendant 7 mois, on a tous été bénévoles pour participer à cette aventure. Et la première pierre qu'on souhaitait poser, c'est celle du congé paternité, en fait du congé de naissance. C'est le sujet que j'ai coordonné dans le rapport, c'est la partie 4. Alors le rapport, vous pouvez le télécharger sur le site du ministère des Solidarités. Et en réalité, ce que nous dit la littérature scientifique internationale, c'est qu'il faut du temps et de la disponibilité pour accompagner nos enfants, nos tout-petits, parce qu'ils ont d'abord besoin d'attachement, ils ont d'abord besoin de réponses appropriées à leurs demandes. Et ça ne se fait pas comme ça. Et la meilleure, le plus grand bénéfice qu'on puisse leur apporter, lorsque les parents le souhaitent, c'est de passer du temps avec eux. Les parents, les 6 à 8 personnes autour d'eux, les parents, les grands-parents, les figures d'attachement. Parce que ça n'est pas rattrapable. C'est une période qui n'est pas rattrapable et c'est la période la plus vulnérable. Alors, on avait proposé, j'ai travaillé le sujet avec deux pays qui sont des grandes nations qui ont beaucoup investi en prévention précoce et dans ces 1000 premiers jours que sont la Norvège et le Québec, qui ont des politiques sociales très très adaptées aux besoins des enfants. On avait préconisé 9 semaines, mais il fallait travailler avec les syndicats. La France n'était pas vraiment prête. Le monde de l'entreprise n'était pas vraiment prête à, pas vraiment prêt à bouger ses lignes. Donc on a déjà opté pour une semaine obligatoire, passer de 11 à 28 jours pour les papas. Et je pense que comme on a bénéficié, j'espère en tout cas, on souhaitait que ce soit applicable à toutes les professions libérales également. Malheureusement, ça n'est pas encore le cas. On espère que, ni les auto-entrepreneurs d'ailleurs, on espère que ça va être appliqué à d'autres professions. Mais c'était la première pierre à l'édifice, hein, et c'est la grande réforme qui a suivi le rapport des 1000 premiers jours. La deuxième, c'est l'instauration en soutien à la parentalité de ces maisons des 1000 premiers jours que notre association, avec Didier, tu es là, avec Claire Audan, grâce à Claire Audan qui est élue, qui est à l'Île-du-Yeu avec nous aujourd'hui, qui est élue à Arras, la première maison est née à Arras. Alors, c'est pas une maison qu'on construit, ce sont des lieux qui existent déjà. Ça peut être des centres sociaux, là c'est un pôle éducatif qui est exceptionnel à Arras. Mais ça peut être aussi un centre de protection maternelle et infantile, une crèche ouverte le samedi matin. On a mis en place un dispositif que j'ai connu, j'étais cette professionnelle il y a 20 ans en Australie, pour accompagner l'ensemble de ces parents qui sortent de la maternité. En réalité, ce que l'on fait dans ces maisons des 1000 premiers jours, c'est même avant la naissance, tous les futurs parents, où on peut déjà être parent, avoir déjà un enfant, et avoir envie d'être accompagné, parce qu'on peut ressentir une très très grande solitude quand l'enfant arrive, on n'est pas forcément soi-même suffisamment entouré. Donc ce que l'on a mis en place avec l'association Ensemble pour la petite enfance, c'est avant même la naissance, on regroupe les parents volontaires. En général, à 80% ils le sont. On les regroupe par 10 avec leur futur bébé et on compose un groupe Maison des 1000 jours dans un lieu en toute proximité du domicile des parents. Et ces parents vont composer le même groupe avec ce sentiment d'appartenance au même groupe pendant la première année de vie de l'enfant. Et on se rencontre deux fois par mois, c'est ce que l'on fait à Arras, ça a été la première maison en France dans un pôle éducatif. Et ces parents tissent des liens entre eux, on les accompagne pour tisser des liens de confiance avec leur bébé, des liens d'attachement, et le professionnel qui est un facilitateur, il donne pas de conseils, mais il outille, il apporte des connaissances scientifiques et on en fait quelque chose ensemble. Eh bien, au fur et à mesure que les questionnements se font avec des parents qui ont des bébés du même âge et qui se retrouvent deux fois par mois ensemble pendant à peu près une heure et demie, on tisse de la parentalité sans recette et sans conseil, c'est-à-dire à partir des besoins des parents. Là, par exemple, à Arras, il y a 6 groupes depuis 18 mois. Il y a eu 2% d'absentéisme pendant la première année, c'est quand même exceptionnel, ça veut dire qu'on répond à un besoin et ses parents se sentent confortés dans leur parentalité, ils peuvent tous avoir le droit d'exprimer des problématiques et on n'est pas là pour apporter des solutions, on est là pour réfléchir ensemble à la façon dont on peut, avec chaque culture, chacun de la place où il est, comment on va pouvoir tisser cette parentalité. Il y a des parents allophones d'ailleurs, il y a beaucoup de papas qui viennent qui ne parlent pas forcément le français, mais on trouve toujours dans le groupe de la pérédance, de la solidarité. C'est un peu remettre en place et tisser une sorte de village autour de ses parents. C'est gratuit, il y a une grande mixité, universalité, et c'est un nouveau dispositif qu'on met en place en France et qui existe en Australie et dans certains autres pays aussi.
Et il y en a combien des maisons?
Alors cette année, en France, on ouvre la 13e maison pilote dans des lieux très différents et des villes différentes. C'est un dispositif d'intérêt général, bien sûr à but non lucratif, c'est totalement gratuit pour les familles. Et ça remporte un grand succès parce que ça correspond à un besoin.
Ok, ben merci beaucoup. Donc maintenant, il y a le concert qui démarre,
ouais.
Mais entre-temps, donc... Nathalie va répondre à vos questions. Alors vous avez compris, elle ne va pas vous donner des conseils, mais je suis sûr qu'elle va vous donner beaucoup d'éclairage. Donc la première question, elle vient d'où ?
Merci beaucoup pour votre exposé. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les enfants qui vivent les 1000 premiers jours de leur vie dans un pays en guerre, avec avec un stress et enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe, voilà.
Oui, il y a des études longitudinales qui ont été réalisées aux États-Unis, en Caroline du Sud, dans les années 60. Des enfants qui vivaient des situations adverses dans des quartiers extrêmement pauvres. Depuis les années 80, des études ont été faites pour comprendre tous les déterminants de santé et l'impact environnemental sur le développement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc c'est comme une balance en fait. Je ne vais pas vous donner de réponse très exacte, hein, mais on peut ensemble réfléchir. C'est comme une balance. D'un côté, il y a les facteurs de risque. C'est ce que nous dit la littérature scientifique. De l'autre côté, on va mettre en place, plus il y a de facteurs de risque et de situations adverses, plus en face, on va essayer d'équilibrer la balance avec des facteurs de protection. Le premier des facteurs de protection, dans les études longitudinales, qui s'avère le plus efficace, hein, c'est l'attachement, la qualité de la relation à l'enfant. Si les parents ne sont pas en capacité d'apporter cette qualité de la relation, il y a des grands-parents, il y a un village autour de l'enfant, il y a quelques autres personnes qui peuvent composer ce village et qui pouvoir devenir ces fameux tuteurs de résilience, parce que le cerveau est tellement flexible et malléable que tout va pouvoir se réparer à condition que ces situations n'aient pas été répétées, très intenses. Et là, ça va laisser des traces qui vont perdurer tout au long de la vie. Mais la résilience fait son effet pour les autres cas. Évidemment, l'attachement, la qualité de l'attachement est le marqueur principal de résilience tout au long de la vie.
Bonjour, j'ai une question par rapport aux écrans. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre les écrans interactifs, téléphone et tout ça, et les écrans de télé simples, en fait?
C'est une super bonne question. Il y a une étude qui a été faite par Gulli. Alors, il faut regarder d'où viennent les études et par qui elles sont financées, bien entendu. Gulli, c'est une émission pour les enfants. Et c'était il y a à peu près 7 ans. Et ils cherchaient à savoir quels étaient les écrans qui étaient préférés par les enfants. Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, l'écran que préfèrent les enfants, c'est la télévision, bien sûr. Mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant dans l'étude. Parce que, disaient les enfants, la télévision, on la regarde avec papa, maman et avec la famille et on peut parler ensemble. C'est-à-dire que l'enfant, seul avec un écran, c'est pas ce qui va l'intéresser le plus, parce qu'il va pas pouvoir échanger. On relie avec les compétences sociales, émotionnelles qui sont à la base du développement global. L'enfant, il est d'abord un être social. Il a d'abord besoin d'être en lien avec l'autre, avec son village, pour se développer. Donc l'écran le plus intéressant, c'est celui grâce auquel on va pouvoir, qui est support d'échange en fait. Est-ce que je vous donne quelques éléments? Oui. Ok.
Je voulais savoir, d'un point de vue scientifique, à partir de quel âge on envisage que l'enfant commence à comprendre les différentes limites sociales? Par exemple, moi je donne un exemple de très courant, on travaille en famille et donc on sait beaucoup au téléphone, en haut-parleur et tout. À quel moment on est dans le travail avec la grand-mère ou on est dans la vie courante, je sens qu'elle commence à l'approcher, mais est-ce que c'est parce que je change de ton, parce que je mets de la sévérité et que je lui dis de pas prendre une place à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que je l'envisage ou parce que effectivement à cet âge-là on commence à comprendre, on est en société ou on est dans le jeu ou on est dans la partie tendre ou voilà.
C'est une question très très actuelle. Notre monde a jamais bougé aussi vite et la période Covid et cette période inouïe, absolument inouïe, qu'on a vécue dans des huis clos a été très très compliquée pour nos enfants qui en effet avaient du mal à faire la part des choses entre maman est en télétravail et maman là est disponible pour jouer avec toi ou pour répondre à tes besoins. L'enfant, s'il n'a pas la parole, ce qui est peut-être encore le cas avec votre bébé, il va comprendre la prosodie, c'est-à-dire la musique de vos mots. Et le ton que vous employez va lui donner une indication sur ce que vous dites. Il ne va pas forcément comprendre le sens, mais il va comprendre la musique de vos mots. Et la musique des mots, elle n'est pas la même quand vous travaillez et quand vous interagissez avec votre famille ou que vous faites autre chose à la maison. Donc ça va lui envoyer un signal. Mais pour autant, ce signal ne va pas forcément lui faire arrêter ses demandes. Parce que au fond de lui, il a un besoin. C'est comme un enfant au supermarché qui, au bout d'une heure, alors que son papa a descendu toute la liste de courses, a été très attentif à la catégorie de pâtes qu'il a achetées, etc. Un bébé, au bout d'une heure, si on ne le regarde plus, si on n'est plus en interaction avec lui, il va signifier un besoin d'isolement. Et il va avoir besoin qu'on lui dise quelques mots, d'être dans les bras, de faire un câlin, d'interagir avec lui. Et il va forcément pas être très très content. Donc que vous travaillez ou que vous ayez une occupation à la maison, son besoin va être le même. Et c'est pas parce que la prosodie va changer que son besoin va s'ajuster, parce qu'il est là. Son besoin. Donc vous pouvez anticiper. Un enfant, il n'a pas la notion du temps. Jusqu'à 5-6 ans, c'est très très compliqué de dire à un enfant dépêche-toi, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le temps. Il n'a pas cette expérience-là. Donc, c'est utile d'anticiper en disant, là, tu vois, aujourd'hui ou ce matin, c'est encore un temps raisonnable, ce matin, maman, elle va faire ça et ça et ça. Et dans son cerveau, pas encore à l'âge de votre enfant, mais autour de 2 ans, 2-6 ans, il va être en capacité de classer dans son cerveau, c'est ce qu'on appelle les compétences exécutives, il va être en capacité de classer dans son cerveau les différentes tâches qui l'attendent. Donc là, c'est votre situation, mais dans la situation de tous les jours, quand on dit à un enfant le matin, il a 2 ans par exemple, ou 3, 4 ans, dépêche-toi, on va à l'école, bah, il va rester le nez en l'air, il va faire autre chose, il ne sait pas ce que c'est que se dépêcher. Ce n'est pas un mot qui a du sens pour un enfant. Alors si vous dites à l'enfant, bah alors, on va chercher les chaussures et puis on met le manteau par terre. Et quand tu auras mis tes chaussures et ton manteau, on va pouvoir partir à l'école. Ça, c'est compréhensible pour lui. Dans un temps donné, il peut classer dans son cerveau les différentes tâches qui sont à réaliser avant de partir à l'école.
Oui, j'aurais une petite question. J'aurais aimé savoir quelle est l'incidence de la famille monoparentale sur l'éducation. Parce que vous donnez de l'importance pour le père, puisque vous voulez une semaine de plus de congé. C'est très sympathique. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Est-ce que vous avez une action préventive? Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on explique aux gens s'il y a une incidence ou pas de partir?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de recherche et d'études. On a quelques éléments dans l'étude ELF, mais peut-être vous en avez. Pour l'instant, il n'y a pas d'études ou de recherche scientifique sur le sujet. Ce qu'on sait, c'est que il y a de plus en plus de familles monoparentales. Par exemple, c'est parmi les 1 enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté en France, il y a un tiers de familles monoparentales. Donc là, il y a un cumul de facteurs de risque. En France, en tout cas, mais que si l'attachement... Alors, si la maman, c'est souvent les mamans qui sont seules avec leur bébé, si autour d'elle, il y a un village, si elle n'est pas seule, parce que le principal risque, c'est l'isolement et la solitude, si elle n'est pas seule, cette maman, eh bien, l'enfant, il va se développer comme les enfants de couple, quelle que soit la typologie du couple. Ce qui est fondamental pour un enfant, c'est la qualité de l'attachement. C'est-à-dire que si cette maman, même si elle vit des situations de vulnérabilité, a tissé ses liens suffisamment solides d'attachement avec son bébé, parce qu'elle-même est entourée, eh bien ce bébé va très très bien se développer.
Bonjour, plusieurs fois vous avez parlé de la maman et du papa, mais du village. L'attachement à l'autre et l'attachement au village. Compte tenu de l'évolution
de la société en France, en Europe et peut-être en Australie différemment du Québec. De quelle manière votre rapport auprès du gouvernement a permis d'ouvrir des pistes sur le fait que la proximité de plus d'une personne pour créer l'attachement pendant les deux premières années sera source de bienveillance ?
Question fondamentale. Les relations avec le gouvernement sont compliquées. Je pense que ça n'aura échappé à personne que les politiques publiques sont un exercice difficile. Ce rapport des 1000 premiers jours, on s'en est aperçu après, mais on aurait recommencé l'aventure dans tous les cas. Beaucoup de choses étaient déjà écrites. On a apporté un consensus scientifique qui donnait l'eau au moulin des décisions qui étaient déjà prises, notamment le congé paternel, alors qu'on pensait pouvoir étendre aussi le congé de naissance pour les mamans. Le village, aujourd'hui, on déploie cette action des maisons des 1000 premiers jours pour recomposer des villages, parce que le Covid a considérablement creusé les écarts et plongé beaucoup de familles dans l'isolement. Il faut retisser du lien social, c'est fondamental en France et dans beaucoup de pays. On est en discussion avec l'Élysée, avec la Première ministre, avec nos nouveaux secrétaires d'État et ministres. On en a 5 hein, qui traitent de l'enfance, donc c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Et on essaye d'avoir un dialogue constructif pour mettre en place, au-delà de la période pilote des 13 maisons des 1000 jours, des groupes de maisons des 1000 jours dans tous les quartiers, comme ça se fait en Australie, où 94% des parents sur un territoire extrêmement isolé participent à une maison des 1000 premiers jours qui s'appelle les cottages. Parce que toutes les sociétés ont besoin de solidarité, de tisser des liens, de retrouver des villages. C'est de la santé sociale. C'est fondamental.
Comment dans une ville, si on est papa, ou si on est maman, ou si on est grand-père ou grand-mère, commencer à faire quelques pas vers la création d'une maison des 1000 jours?
Alors c'est à la maternité, les sages-femmes libérales. Dès l'entretien prénatal précoce, on parle des maisons des 1000 premiers jours dans les villes où elles sont installées. Et le plus tôt est le mieux, bien entendu, agir tôt. Et ces familles sont tout de suite orientées vers les maisons des 1000 premiers jours. C'est un dispositif nouveau qui démarre, que moi j'ai connu et expérimenté puisque j'étais une facilitatrice en Australie dans un quartier sensible. Et j'ai eu cette chance d'accompagner des parents très très vulnérables pendant 2 ans et demi. Et ça fait 10 ans que je rêve de cette grande aventure en France. Et il a fallu 10 ans pour la mettre en place. Il y a beaucoup d'initiatives de soutien à la parentalité, mais qui sont souvent très isolées. Et là, l'intérêt, c'est que dans le maillage territorial, on vient fédérer tous les services aux familles et on permet à toutes ces familles d'interagir avec ce qui existe. Et ça rend visible aussi les services existants. Alors, oui, pour prolonger l'aventure. Donc, on vient de terminer un film avec le docteur Boris Cyrulnik, le professeur Antoine Guedney, qui est le spécialiste mondialement reconnu de l'attachement, qui est un pédopsychiatre exceptionnel, et Isabelle Filiosa. On s'est réunis à 4 et à Arras. Merci Claire. On a réalisé le film des 1000 premiers jours, là où tout commence. C'est le titre de notre conférence, notre échange aujourd'hui. Il est passé en avant-première à Arras, il va passer sur France 2 en prime à la rentrée, mais j'ai pas encore la date parce qu'il y a le rugby qui nous... Voilà, c'est priorité au rugby apparemment pour France Télévisions. Alors les 1000 premiers jours, vous le verrez bientôt. Et je suis en train de poser le dernier petit mot ajustement au livre qui s'appelle « Là où tout commence ». Et qui sort sous la coédition Odile Jacob, Le Cherche Midi, première semaine de novembre, et qui sera présenté au Congrès des maires en novembre prochain. Voilà, toujours une écriture à 4, où on décrypte les séquences de ce film pendant lequel on a suivi 6 bébés pendant 6 mois, dans 5 familles, donc il y a une paire de jumeaux, pendant leurs 1000 premiers jours. Et les âges de ces bébés composent la période des 1000 premiers jours. Ils vivent des aventures avec leurs parents qu'on décrypte dans ce film et ce livre. Donc on prolonge le rapport avec la suite. C'est bien, il y a beaucoup de questions d'hommes. Hein. Oui, après, il y a une question derrière.
Pour la dissémination plus rapide, parce que 13 maisons en 2 ans et demi, c'est extrêmement lent, pourquoi n'utilisons pas des réseaux existants, par exemple, ça peut être autre chose, mais par exemple les PMI?
Mais exactement. Alors, merci beaucoup. 13, c'est la période pilote. On voulait savoir comment ça résonne dans différents environnements. Parce qu'évidemment, on relève des impacts à la fois sur la santé de l'enfant, mais aussi sur le devenir parent et l'outillage du professionnel. Et donc, 13, c'est la période pilote. Et on travaille avec 2 départements, la Moselle et l'Aube, pour disséminer plus rapidement et sur d'autres réseaux de soutien à la parentalité. Donc là, ça va prendre un autre essor, on va changer d'échelle pour répondre à votre question. Mais si vous voulez nous aider, alors nous, on est une association d'intérêt général, on accepte et on est heureux de toutes les aides et tous les soutiens qui sont volontaires. Merci beaucoup.
Moi, c'est une question très concrète de future grand-mère. Vous avez évoqué 12 pleurs différents. Comment vous les identifiez? Parce que concrètement, on sait reconnaître le pleur de l'enfant qui s'est fait mal, de celui qui a faim et qui est fatigué, ouais. Et peut-être celui qui a peur, mais les autres, si vous avez suivi justement tous ces enfants...
Oui, c'est une question très concernée, là, je vois. Bon, il y a à peu près 12 pleurs. Alors, c'est une cantatrice australienne qui nous a orientés sur cette reconnaissance. Elle a l'oreille absolue. Elle s'appelle Priscilla Dunstan. Peut-être que vous avez entendu parler d'elle. Et elle a lancé une étude en Australie. Elle a écouté les pleurs des bébés de son pays. Elle est allée dans 10 autres pays, dans 9 autres pays. Au total, il y avait 10 pays. Et elle est allée écouter les pleurs des bébés jusqu'à 4 mois. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Jusqu'à 4 mois, elle s'est aperçue, grâce à son don d'oreille absolue, qu'il y avait à peu près 12 pleurs différents. 12, oui, c'est une sorte de prosodie, de musique de ces pleurs chez les bébés. Et elle les a référencés. Alors, il y a sur YouTube, il y a des audios qui correspondent à ces 12 pleurs de faim, de sommeil, de besoin de câlins. Je vais pas vous les faire là tout de suite, mais nez, par exemple, c'est j'ai sommeil. Et elle s'est aussi aperçue qu'à 4 mois, à partir de 4 mois, eh bien, l'empreinte culturelle vient se poser sur la prosodie, la langue du bébé, et les pleurs sont différents d'un pays à l'autre. Donc là, il faut suivre. Hein. D'où l'intérêt de passer du temps avec nos bébés. Il y a une étude norvégienne. Il y a une 50aine de papas dans une pièce. Hein, c'est super intéressant. Les bébés ont 4 mois. Et seuls les papas qui ont vraiment utilisé leur congé paternité à fond dès la naissance de leur bébé, seuls les papas qui avaient passé les 4 premiers mois de la vie de leur bébé avec eux étaient en capacité de reconnaître les pleurs de leur bébé dans une pièce où il y avait une 50aine d'autres bébés du même âge. C'est fort, hein, quand même. Ça veut dire qu'il faut du temps, de la disponibilité. Enfin, il faut. Si c'est possible. Et une bonne oreille. Si on a l'oreille absolue, alors là, c'est juste, la cerise sur le gâteau.
Juste une information pour compléter votre histoire. Moi, j'ai eu le livre de Priscilla Dunstan, qui s'appelle ouais. Il pleure, que dit-il?
C'est ça.
Décoder enfin le langage caché des bébés. C'est ma fille qui m'avait dit achète-le. Donc je l'ai acheté, je l'ai recommandé à des tonnes de copines et je m'en suis servie, bien sûr, parce que c'est mais extraordinaire de lire d'abord son introduction et tout. Donc c'est paru maintenant chez Lattès.
Exactement.
Et ça coûte 18 euros. Ça va pour prendre les pleurs de son bébé.
Il y a un bon retour sur investissement là. Merci beaucoup. Ouais, Priscilla Dunstan.
On va arriver peut-être à la fin, parce qu'il y a encore une question. Si vous permettez encore une question d'homme, je voudrais revenir à la période fœtale, in utero. Vous avez abordé un tout petit peu la communication entre les parents et ce fœtus. Et alors, instinctivement, je dirais, les parents savent, enfin surtout la maman, sait communiquer par des caresses, en parlant, etc. Il existe aussi une méthode qui s'appelle l'aptonémie. Est-ce que vous pourriez dire ce que c'est, en quoi ça consiste et ce que vous en penserez?
J'éviterai d'émettre un avis, mais je pense que c'est une des façons de communiquer avec son bébé avant la naissance. L'aptonomie, c'est une... Catherine Dolto serait mieux placée que moi pour en parler. C'est une façon de communiquer avec son bébé avant la naissance et d'interagir. La voix et les caresses permettent au bébé d'avoir un échange et un dialogue avec ses parents. Et en effet, il y a des approches, des méthodes qui permettent aussi, avant l'accouchement, de placer ses mains et aussi pour aider au retournement du bébé lorsqu'il est en siège. Avec l'autonomie, on arrive, dans certaines situations, à faire retourner le bébé. Pourtant, dans certains cas, il n'y a plus beaucoup de place à l'intérieur, mais ça permet de... Voilà, il y a déjà de la compréhension mutuelle et du dialogue entre le bébé et ses parents grâce à l'autonomie, qui est une approche extrêmement intéressante. Et il y a quelques ouvrages de Catherine Dolto en particulier sur le sujet. Mais vous avez peut-être d'autres références?
Non, mais on a pratiqué avec...
Ah, vous l'avez pratiqué. Ah, bah, oui. Alors, ceux qui l'ont pratiqué, c'est aussi une première pierre très, très importante avant l'arrivée du bébé. Ah,
oui. Voilà. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de cette rencontre. En fait, et il nous reste à remercier, en fait, et à féliciter Nathalie.
Merci. Voilà. Merci à vous.